Il est 22h, ici à Paris, 20h en temps universel.
Loïc Bussière.
Et c'est l'heure de votre journal en français facile, journal que je vous présente en compagnie de Zéphirin Quadio. Bonsoir Zéphirin.
Bonsoir Loïc, bonsoir à toutes et à tous.
À la une ce soir, la fin en Israël de l'ère Netanyahou. Le Parlement a voté la confiance au nouveau gouvernement de coalition. Il sera mené par le chef de la droite radicale, Naftali Bennett.
La fin du sommet du G7 dans le sud-ouest de l'Angleterre. Après 3 jours de débats, les dirigeants des grandes puissances se quittent sur des promesses, celles notamment de faire face ensemble aux futures pandémies.
Et puis en tennis, Novak Djokovic s'impose à Roland-Garros. Après avoir écarté Rafael Nadal en demi, il a dominé Stefanos Tsitsipas en finale.
Le journal en français facile.
Et d'abord, ces démonstrations de joie dans les rues de Tel Aviv. Des milliers de personnes rassemblées sur la place Rabin pour fêter la fin de l'ère Benjamin Netanyahou.
Oui, Benjamin Netanyahou qui sera resté 12 ans de suite au pouvoir. Le Parlement israélien a voté en effet la confiance au nouveau gouvernement. Il sera mené par le nationaliste Naftali Bennett et le centriste Yair Lapid, même si les députés ont fait durer le suspense jusqu'à la dernière minute sur place. Les précisions de notre correspondant Michel Paul.
60 à 59, la confiance a été votée au gouvernement Bennett. Un député de la liste RAM, le parti islamique, s'est finalement abstenu, comme il avait menacé de le faire. Une majorité relative et non pas absolue donc pour la coalition du changement. Un détail qui n'a pas échappé à la nouvelle opposition. Autre acquis, c'est Mickey Levy, un député du parti bleu-blanc, un ancien chef de la police de Jérusalem, qui a été élu président de la Knesset. Le débat qui a précédé les votes a été mouvementé. Ce qui s'est passé à la Knesset est sans précédent dans l'histoire parlementaire du pays, font remarquer les commentateurs. Le discours de Naftali Bennett a été ponctué d'interpellations de députés de la droite, à tel point que plusieurs d'entre eux ont dû être expulsés de l'hémicycle pour permettre au chef de file du parti Yémina de terminer tant bien que mal son discours. Benjamin Netanyahou, lui, s'en est pris également à son successeur. Comment faire confiance à celui qui est responsable de l'arnaque électorale du siècle, s'est-il écrié. « Je reviendrai », promet Netanyahou, bien campé dans son nouveau rôle, celui de chef de l'opposition, et plus vite que l'on pense, ajoute-t-il. Michel Paul, Jérusalem, RFI.
À la une également, le sommet du G7 qui s'est refermé ce dimanche au Royaume-Uni avec une 3e journée consacrée à l'urgence climatique.
Et avant cela, les dirigeants du groupe des 7 plus grandes puissances mondiales avaient abordé les questions économiques et la pandémie de coronavirus. Ils se sont quittés ce soir avec la promesse d'agir ensemble sur ces dossiers, manière pour le G7 de restaurer son image en mettant en avant la solidarité de ses membres à travers notamment le plan de bataille présenté pour faire face aux futures pandémies, Romain Lemaresquier.
C'est un plan ambitieux, qualifié même d'historique par Londres, que les dirigeants du G7 ont présenté ce samedi. Le but, réduire le délai pour développer de futurs vaccins, mais également des traitements et améliorer les diagnostics, avec l'objectif d'être en mesure de répondre en moins de 100 jours à l'apparition d'une nouvelle maladie. Après la pandémie de coronavirus qui continue de paralyser une partie du monde et qui a fait des millions de victimes, les pays du G7 veulent prendre les devants. Ce plan implique d'investir massivement dans la recherche médicale, notamment pour ne plus être dépendant d'autres pays pour fabriquer de nouveaux vaccins ou traitements. Les pays du G7 se sont par ailleurs engagés à fournir 1 milliard de doses de vaccins contre le Covid à une centaine de pays dans les 2 années à venir. Ils plaident pour une réforme de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, afin de renforcer une institution indispensable pour lutter contre les pandémies. Le directeur de l'OMS a d'ailleurs annoncé que le but de son organisation était de vacciner au moins 70% de la population mondiale d'ici au prochain sommet du G7 qui se tiendra l'année prochaine en Allemagne. Des annonces qui visent à démontrer l'union des pays du G7, une unité retrouvée en grande partie grâce au président américain Joe Biden.
Romain Lemaresquier a noté que Joe Biden, justement, qui participait à son premier sommet du G7, a quitté Londres pour Bruxelles à peine les débats terminés. Bruxelles où se tiendra demain un autre sommet, celui de l'OTAN. Joe Biden assistera dans la foulée à une réunion avec les présidents des institutions de l'Union européenne avant de se rendre à Genève où il doit s'entretenir avec son homologue russe Vladimir Poutine.
Il est 22h05 à Stockholm. On se rend en Suède à la rencontre, ou plutôt à la découverte d'une tradition qui remonte au 19e siècle. Il s'agit des studenten.
Oui, les studenten, ce sont ces fêtes débridées qui célèbrent la fin du lycée, rappelez-vous, Zéphirin, et l'entrée à l'université ou dans la vie active. Ces fêtes se tenaient dans le pays en cette fin de semaine. Problème, cet usage se marie mal aux restrictions encore en cours pour cause de Covid, notamment le nombre de personnes autorisées à se rassembler. Les intéressés sont toutefois souvent passés outre le règlement. Le reportage à Stockholm de Frédéric Faux.
Les studenten, c'est ça. Une fête débridée qui commence par un petit déjeuner au champagne avec toute sa classe dans un parc de la ville. Un dernier repas à la cantine, une sortie en fanfare du lycée où on lance vers le ciel une casquette blanche. Et puis une série de fêtes qui continuent jusqu'au lendemain. Les restrictions, Benjamin et Marcus ont préféré les oublier.
J'étais à la fête d'un ami hier qui était censé être une petite fête et on était 200. On a tout fait, des batailles d'extincteurs, des feux d'artifice.
Même s'il y a le corona, c'est bien de célébrer cette dernière année. C'est la fin d'un chapitre.
L'une des traditions des studenten veut que chaque classe prenne place à l'arrière d'un camion pour parader dans les rues de la ville, en criant et en chantant. La mairie a interdit ce genre de rassemblement, mais les lycéens ont trouvé une faille.
Au lieu d'un camion, on va sur un bateau cette année. Beaucoup de gens ont fait ça.
C'est un vice juridique. Ils ont oublié d'interdire la location de ces bateaux.
Une fête d'autant plus nécessaire pour ces lycéens de terminale qu'ils ont été parmi les plus touchés par les restrictions. Les autorités ayant estimé qu'ils étaient les plus capables de supporter l'enseignement à distance, beaucoup d'entre eux ne sont venus dans leur établissement qu'une semaine sur trois. Frédéric Faux, Stockholm, RFI.
En bref, en France, le départ du général François Lecointre, il occupait depuis 4 ans les fonctions de chef d'état-major.
Oui, un départ à la demande de l'intéressé qui explique que sa décision est dictée par le calendrier politique et la prochaine présidentielle. L'Élysée a choisi le général Thierry Burquard, actuel chef d'état-major de l'armée de terre, pour le remplacer.
Autre nomination, celle d'Antoine Anfray, nouvel ambassadeur de France au Rwanda.
Mais le poste était vacant depuis 6 ans en raison des tensions entre Paris et Kigali à propos du génocide de 1994. Le gouvernement rwandais a approuvé hier cette nomination, annoncée il y a une quinzaine de jours par Emmanuel Macron quand il était en déplacement à Kigali.
Les sports avec en tennis Novak Djokovic qui s'impose en finale de Roland-Garros.
Le Serbe est venu à bout de Stefanos Tsitsipas en 5 manches. Il remporte son 19e titre de Grand Chelem.
Le football est la suite du premier tour de l'Euro.
Oui, avec la victoire de l'Autriche sur la Macédoine du Nord. En ce moment, l'Angleterre mène 1-0 face à la Croatie. Les Pays-Bas et l'Ukraine s'affrontent également. Aucun but marqué, 0-0 pour l'instant.
Et le football, ce n'est pas que l'Euro, c'est aussi le début aujourd'hui de la Copa América.
Oui, c'est l'autre grande compétition continentale qui regroupe les 10 meilleures sélections sud-américaines. Elle a aussi été reportée comme l'Euro d'un an à cause du Covid, mais a en plus dû déménager à la dernière minute au Brésil, après les désistements des pays hôtes, en l'occurrence l'Argentine et la Colombie, en raison précisément de la crise sanitaire, Tom Rossi.
Les Brésiliens défendront bien leur titre à domicile malgré leur opposition à la tenue de la compétition. Leur pays est l'un des plus touchés par la pandémie de Covid-19, avec près de 500 000 morts. Mais la Cour suprême a donné son feu vert. Les deux immenses stars, Messi et Neymar, vont donc pouvoir se mettre en quête de leur premier titre en Copa América. Le numéro 10 brésilien du PSG était blessé lors du sacre en 2019. C'était déjà à domicile et le Brésil ne se présentait pas avec autant de certitude sur le terrain. Cette année, la Seleção, grande favorite, survole les qualifications sud-américaines pour la Coupe du Monde 2022 avec 6 victoires en autant de rencontres depuis octobre. Ce n'est pas le cas de l'Argentine qui n'a gagné qu'un seul de ses 4 derniers matchs. L'Albi Céleste court après un sacre en Copa América ou au Mondial depuis 28 ans. Et c'est sans doute la dernière opportunité pour Lionel Messi dans cette compétition après 3 finales perdues. La Pulga fêtera ses 34 ans pendant le tournoi.
Une précision signée Tom Rossi. Le coup d'envoi de cette Copa América, ça sera à 21h, temps universel avec Brésil-Venezuela, suivi à 1h, temps universel de Colombie-Équateur. Pour l'heure, il est 22h et presque 10 minutes ici à Paris. Et c'est la fin de ce journal en français facile. Merci à vous, Zéphirin Quadio, de l'avoir présenté à mes côtés.
Merci beaucoup, Loïc Bussière.
Et merci à vous de votre fidélité à la Radio du Monde.